La foi nous 16. Demeurez ferme dans la foi, deuxième partie ou la foi par l'expérience. Le 12 juillet 2017. Brian Kozurek. Pasteur. Philippiens 1h27 seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la révélation de l'Évangile. Dimanche, nous avons parlé à partir du sermon de frère Branham, Christ est à révéler dans sa propre parole 65-08-22m, du paragraphe 155 à 157, où nous avons dit que les feux du réveil sont terminés et ce qu'il reste, c'est-à-dire seulement la stabilisation des élus de Dieu. Par conséquent, ce soir je voudrais continuer avec ces pensées, alors que nous relisons ces paragraphes du message de frère Branham, Christ est à révéler dans sa propre parole. 155. Un brave pasteur disait tout à l'heure, frère Branham, si seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon cœur. 156 j'ai dit, fiston, le réveil est terminé. Voyez-vous? Maintenant les stabilisateurs ont été installés sur le navire. Il y a de grosses vagues redoutables qui nous attendent, mais nous savons que, juste au-delà de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. Voyez-vous? Nous approchons du rivage. Restez simplement stable. Maintenant, je voudrais poser une question, comment pouvons-nous rester stables quand nous voyons autant d'incrédulité et d'insanité parmi nous, alors que nous vaquons à nos occupations de tous les jours? Eh bien, frère Branham continue et nous dit comment nous pouvons rester stables. Il dit, restez simplement dans la parole. Restez avec Dieu. Peu importe comment vous vous sentez, quoi qu'il arrive, restez attaché à la parole. Maintenez la stabilité. Quand vous voyez tous ces gros nuages qui nous entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont ils parlent, notre stabilisateur, lui, est bien installé dans la parole. Dieu a dit que cela viendrait. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui. Nous passerons par-dessus. Certainement. Ils n'aimés peuvent pas nous couler. Ils n'aimés peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la tombe. Nous en ressortirons. Un point. Siester tout. Rien au monde n'aimé peut maintenir cela en dessous. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Parce que notre grand capitaine en chef est en train d'appeler, de l'autre côté. Nous sommes ancrés en Jésus, les tempêtes de la vie je braverai. J'ai jeté l'ancre en Jésus. Je n'ai mis craindrai ni vent ni vague. 157. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, cela n'est mis change rien. Nous sommes ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. Je veux simplement, pourvu que ce soit la gloire de Dieu, c'est-à-dire tout ce que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je n'ai mis désir pas rester plus longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, qu'il a achetée pour moi. Non pas ce que j'ai gagné, mais ce que lui a acheté pour moi, ce qu'il m'a donné par sa grâce. Et quand j'ai réexaminé ce paragraphe du sermon de frère Branham, j'ai vu où il a aussi parlé des orages comme quelque chose dont on n'aimé devait pas avoir peur, parce que nous sommes ancrés dans sa parole. Cela a ramené mes souvenirs de 1997, lorsqu'il a fait 102 degrés Fahrenheit pendant 6 jours d'affilée, et que les gens de l'église tombaient malades. Alors, J'ai demandé à l'église d'incliner leur tête et nous avons prié de Dieu de changer la température de 30 degrés et après 2 ou 3 heures. Dieu a fait venir un énorme nuage d'orage qui était une réponse à notre prière. Alors que le nuage absorbait tout l'air chaud et cela fit baisser la température à 70 degrés. Je suis sûr que d'autres qui ont vu ces nuages ont eu peur de ce qui se passait. Mais nous qui étions là, savions que nous avions prié et ces mêmes nuages étaient une réponse à notre prière. La même chose s'est produite en 2012 en Argentine. Et l'orage était une réponse à notre prière. Et quelque chose à redouter de ceux qui n'en savaient pas le pourquoi. Mais pour les élus cela a été immédiatement compris que Dieu les soulageait de la chaleur. En fait, le même orage qui a soulagé les élus, a fait beaucoup de dégâts aux maisons des incroyants dans la région. Ils ont même publié le matin suivant qu'une tornade Esther passait par là. Ô combien Dieu accomplit ses prodiges de façon mystérieuse. Cela montre simplement combien les bénédictions et les malédictions de Dieu sont si exigeantes dans leurs accomplissements. Par conséquent, quand nous pouvons voir de nos propres yeux que notre Dieu est plus que certainement sur scène, cela devrait faire quelque chose dans nos âmes. Et cela devrait nous faire arriver au point de repos et de paix qu'il nous a promis, sachant qu'il a plus que certainement tout sous son contrôle, même la météo. Par conséquent, alors que nous lisons ce que frère Branham a dit au paragraphe 157, nous pouvons voir une parole vivante qui nous a été rendue réelle à travers ce que Dieu a accompli devant nos yeux. Et Dieu utilise nos expériences avec lui pour édifier notre foi. Frère Branham a prêché un sermon le 25 mars 1958 intitulé « La foi par l'expérience ». Et il nous a dit que Dieu édifie notre foi en nous donnant des expériences pour l'édifier. Pour moi, cette parole devient de plus en plus une réalité chaque jour que nous vivons. Nous avons un Dieu vivant parmi nous, qui veille sur nous activement, avec le désir de faire partie de notre vie quotidienne. Dans Psaume 1, 6 nous lisons, « Car l'Éternel connaît la voie, l'Éternel veille sur la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. » Cette expression « mener à la perdition » vient du mot grec « obad » et cela veut dire qu'ils sont abandonnés à leur propre sort. Ainsi, nous voyons Dieu veiller sur nous et tandis qu'il veille, parfois, il nous pousse en nous donnant des expériences qui soutiennent notre foi dans sa parole. 2 Corinthiens 6:14-18-16 Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. 17 Esther Pourquoi? Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Néhémie touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est à la promesse sous laquelle nous vivons, des fils et des filles de Dieu. Apocalypse 21:3-4 Darby et jouit une grande voix venant du ciel, disant, voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Leur Dieu. 4 Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort n'y sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. De nouveau, relisons ce que frère Branham a dit au PP 157. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, cela n'y change rien. Nous sommes ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. Je veux simplement, pourvu que ce soit la gloire de Dieu, c'est tout ce que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je n'y désire pas rester plus longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, qu'il a acheté pour moi. Non pas ce que j'ai gagné, mais ce que lui a acheté pour moi, ce qu'il m'a donné par sa grâce. Et c'est-à-dire de cette manière que nous voulons aussi aborder la vie. Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce dont nous n'avons pas le contrôle? Mais il y en a un qui veille activement sur nos faits et gestes, et qui connaît tous nos besoins. Il a le contrôle sur toute situation de nos vies. Cela devrait nous mettre en repos, parce que nous savons qu'il est là non seulement ici, mais nous avons vu sa puissance en démonstration se confirmant lui-même comme étant vivant et parmi nous, le même comme autrefois. Oui. Il nous l'a prouvé à maintes reprises en nous donnant des expériences afin de connaître qu'il restait le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien croit que Dieu restait le même aujourd'hui qu'il était pendant le premier exode avec Moïse, et le deuxième exode qui a commencé avec Jésus et qui a continué avec Paul? Dans le premier exode, nous voyons dans Exode 10h13 Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Mais est-ce que les sauterelles ont attaqué le peuple de Dieu à Goshen? Non. Le vent d'Orient a apporté la fraîcheur au peuple de Dieu, mais le même vent a apporté le jugement au peuple d'Égypte. Exode 14h21 Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. De nouveau, Dieu a utilisé un vent puissant pour la délivrance de son peuple, mais aussi pour la destruction de l'armée de l'Égypte. Dans le livre des Psaumes, nous avons reçu l'ordre de parler de toutes les choses grandes et glorieuses dont nous sommes les témoins, par lesquels le Seigneur nous montre qu'il est avec nous, et qu'il est notre Dieu. J'ai dit plusieurs fois que chacun devrait avoir un livre de souvenirs dans lequel nous écrivons toutes les choses grandes et prodigieuses que Dieu fait pour nous montrer, chemin faisant, qu'il est avec nous, et qu'il est notre Dieu. La foi vient par l'audition de la parole de Dieu, et elle vient par l'expérience. Et quand nous répétons les expériences dont nous avons été témoins à nos enfants, et aux enfants de nos enfants, nous intensifions notre foi et édifions leur foi par la même occasion. Alors ils s'attendront à ce que Dieu fasse ce qu'il aime faire, pour eux, et ceux qui s'y attendent sont ceux-là qui reçoivent la promesse. Psaume 78. À mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Deux, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des anciens. Trois, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Quatre, nous n'aimons le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. 7. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. 8. Afin qu'ils n'y fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. 9. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. 10. Ils n'y gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. 11. Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. 12. Devant leur père il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. 13. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille. 14. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. 15 Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. 16 Du rocher il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. 17 Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. 18 Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. 19 Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert? 20 Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple? 21 L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. 22 Parce qu'ils n'aimaient et crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. 23 Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. 24 Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. 25 Ils mangèrent tout le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. 26 Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. 27 Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers les oiseaux ailés. 28 Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. 29 Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment, Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. 30 Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. 31 Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. 32 Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et n'aimaient crurent point à ses prodiges. 33 Il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par une fin soudaine. 34 Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. 35 Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. 36 Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. 37 Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. 38 Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne les détruit pas. Il retient souvent sa colère et, Néhémie se livre pas à toute sa fureur. 39 Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et Néhémie revient pas. 40 Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. 41 Il Néhémie cessèrent de tenter Dieu, et de provoquer le Saint d'Israël. 42 Il Néhémie se souvint pas de sa puissance, du jour où il le délivra de l'ennemi, 43 Des miracles qu'il accomplit en Égypte, et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. 44 Or il changea leur fleuve en sang, et il Néhémie put en boire les eaux. 45 Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. 46 Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. 47 Il fit périr leur vigne par la grêle, et leur sycamore par la gelée. 48 Il abandonna leur bétail à la grêle, et leur troupeau au feu du ciel. 49 Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. 50 Il donna libre cours à sa colère. Il n'aimait ni sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. 51 Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. 52 Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. 53 Il les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. 54 Or il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. 55 Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. 56 Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. 57 Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent, comme un arc trompeur. 58 Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. 59 Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. 60 Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. 61 Il livra sa gloire à la captivité, et sa majesté entre les mains de l'ennemi. 62 Il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. 63 Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges n'émis furent pas célébrées. 64 Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves n'émis pleurèrent pas. 65 Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. 66 Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. 67 Cependant il rejeta la tente de Joseph, et il n'émit choisit point la tribu d'Éphraïm. 68 Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. 69 Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. 70 Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. 71 Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. 72 Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Remarquez, Dieu nous montre qu'il a utilisé expérience après expérience pour édifier son peuple dans la foi et cependant, parce qu'ils oublient rapidement ces expériences, leur cœur s'endurcit rapidement aux choses de Dieu. Il vous faut parler de cette parole, mes frères et sœurs, et il vous faut parler à vos enfants et leur parler des moments où Dieu a personnellement intercédé en votre faveur, et vous a sauvé de la maladie ou du danger. La foi vient de ce qu'on entend. Entendre quoi? Entendre la parole de Dieu exprimée par les expériences dont vous avez été témoins. Lorsque les parents de ma femme nous ont raconté les choses qu'ils ont vues dans les réunions du prophète, cela m'a encouragé à édifier ma foi. Lorsque Frère Vel ou Billy Paul nous ont raconté ce qu'ils ont vu, c'était comme si j'étais là et voyais ces choses moi-même. Lorsque Frère Bosworth nous a raconté les nombreuses fois où Dieu a créé des tympans chez des enfants sourds qui en étaient dépourvus à leur naissance, cela a créé en moi une foi pour croire à la puissance surnaturelle de Dieu. Lorsque Fr. Billy Paul nous a raconté la fois où ils ont vu la fille qui n'avait pas Dieu dans les orbites, a d'abord reçu une lumière blanche qui lui a donné des globes oculaires, et ensuite quand son père a prié pour la couleur de ses yeux, et qu'il a vu deux stries bleues descendre dans ses yeux, cela m'a tellement rempli de foi que je sentais que j'étais là quand cela s'est reproduit. Et ce sont ces choses qu'il vous faut partager avec vos enfants, et cela édifiera leur foi comme cela édifie la vôtre, chaque fois que vous racontez ces histoires. Nous lisons dans 1 Roi 18:30-46 Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. 31 Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32 Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. 33 Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. 34 Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 35 l'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 36 au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. 37 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qu'ils aillent Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. 38 Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39 Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, C'est l'Éternel qui est Dieu. 40 Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. 41 Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. 42 Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 43 Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. 44 La septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45 En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizréel. 46 Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Deuxième Exode Matthieu 8h23-27 8h23 Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. 24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. 25 Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 26 Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. 27 Ces hommes furent saisis d'étonnement, quel est-ce celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Luc 7h24 Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Quel genre de gens devrions-nous être? Qui sont agités par le vent? Ou qui ont autorité sur le vent? Jacques 1:6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Acte 2. De tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous avons vu Dieu utiliser son vent impétueux pour montrer sa présence dans le premier exode et le second exode. Alors qu'en est-il de ce troisième exode que nous expérimentons? En janvier 1958, mon beau-père et ma belle-mère ont pris part à une réunion du prophète de Dieu à Waterloo. En Iowa, un puissant vent impétueux est rentré dans cet endroit et a rempli tout le dépôt de vent qui a soufflé violemment la veste et la cravate du prophète. Et tout le monde a entendu le son d'un puissant vent impétueux qui retentissait pratiquement comme un train ou une tornade. Et je crois que Dieu est le même et ne change pas. car la colonne de feu nous conduit toujours au millénium. Je n'émissais pas ce qu'il en est pour vous. Mais nous avons plusieurs fois là où les vents puissants de Dieu sont entrés majestueusement en scène et ont apporté la délivrance aux gens et le jugement aux non-croyants dans la région. Il y a très peu de fois où ces choses se sont produites dans l'histoire de l'humanité. Et cependant, Dieu a permis à ce petit groupe de ses enfants d'être les témoins oculaires de sa majesté et de sa puissance, d'une manière si surnaturelle, qui par nature appartiennent au millénium. Il nous a donné un petit avant-goût des puissances du monde à venir. Non seulement avec ce que nous avons vu à travers son prophète, mais aussi avec ce que cette petite église et ceux qui sont venus à nos réunions ont expérimenté au Congo et en Argentine. Parmi vous ici, il y en a qui sont assez âgés pour se rappeler quand nous étions au Kentucky au moment où Dieu a utilisé le souffle de sa bouche pour déplacer l'air chaud et soulager ses enfants. Je l'ai vu en Ouganda quand Dieu a arrêté par deux fois de forts vents et l'orage violent d'un seul jour. Et je l'ai vu en Argentine lorsque Dieu a utilisé le souffle de sa bouche pour apporter des vents puissants afin de repousser la chaleur et soulager instantanément ses enfants. Et Dieu continue encore à nous conduire. Et je m'attends à voir plus de sa présence surnaturelle parmi nous. Parce que nous n'y regardons pas le vase que Dieu utilise mais le Dieu qui utilise le vase. Et bien que Dieu change de vase, mais il reste le même et ne change pas. Dans son sermon, Dieu dévoilait 64-06-14-36 il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre, qui étaient avec nous l'autre jour, quand il est intervenu dans un tourbillon. Il nous l'avait dit la veille, frère Bankswood et les autres, quand il avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur. Vous n'allez pas tarder à voir. Et j'ai ramassé la pierre, au sommet de la montagne, je l'ai lancée en l'air, et, naturellement, en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui a été créée. 37 Vous devez faire quelque chose, pour que quelque chose s'en suive. Jésus a pris un morceau de pain, et il l'a rompu. Ensuite il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau, il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat. Il a coupé un morceau de bois, il l'a jeté sur l'eau. C'est-à-dire quelque chose pour symboliser. Et d'avoir ramassé cette pierre et de l'avoir lancée en l'air, en descendant c'est-à-dire ce qui a déclenché le tourbillon. Les œuvres sont la foi exprimée 65-1126, 40 alors, il y avait une vingtaine d'hommes qui se trouvaient là. Nous étions à la chasse aux pécaris. Et j'ai dit, le jour avant de graver à la montagne, j'ai dit à frère Bankswood, vous le connaissez tous, un ami intime. J'ai dit, frère Wood, j'ai pris une pierre, je la jetais en l'air, et elle est retombée. Et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, quelque chose est sur le point d'arriver. 41 Alors, il a dit, qu'est-ce que c'est frère, Branham. 42 J'ai dit, je n'ai mis ses pas. Mais dans les 24 heures tu verras. Quelque chose est sur le point d'arriver. C'est un grand signe. Allez réveiller Jésus Sam 30 novembre 63 et ce 28 maintenant. Ouvrez vos Bibles. Si ça vous intéresse. Dans l'évangile de Saint Marc. Chapitre 4. Et est mon sujet ce soir. Je vais l'intituler. Allez réveiller Jésus. Et mon thème ce soir. C'est appeler Jésus sur la scène. Allez le réveiller. L'appeler sur la scène. Voici le passage des Écritures, dans Saint Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, Ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. E29 Néhémie, serait-ce pas là un sujet merveilleux, l'amenait-elle qu'il Esther? L'amenait-elle qu'il s'Esther présenté à vous? Voyez. L'amener dans la barque. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent, « Maître, Néhémie, t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel Esther donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» E30 Et les Écritures déclarent, « Il est Esther le même. Les vents et les vagues lui obéissent. Quel Esther donc ce genre d'homme ? Il était le fils aîné dans une grande famille de frères. Voilà le genre d'homme qu'il était. Et n'êtes-vous pas aussi des fils de Dieu ? La parole de Dieu Néhémie, dit-elle pas que toute la création soupire de vous voir être manifestée comme des fils de Dieu ? Alors attendez-vous à l'impossible. Car tout Esther possible à celui qui croit. Le signe de ces en mer 13 novembre 63 121 est bien. Jonas, quand il a pris plutôt l'autre bateau, tout d'abord, il allait dans la mauvaise direction, et ils ont eu des ennuis. Le vent se mit à souffler, les vagues se mirent à mugir, et tout le monde pensait que le bateau allait couler. Jonas était alors profondément endormi, et les gens dirent, « Lève-toi, toi qui dors, et invoque ton Dieu. » E122 Et Jonas avoua qu'il était dans l'erreur. Il dit, « Eh bien, liez-moi les pieds et les mains et jetez-moi par-dessus bord, et alors la tempête va cesser. » Et ils firent cela. Et Dieu avait déjà disposé un gros poisson. Le témoignage 28 novembre 63 ME 70 Et pendant que j'étais là en ce moment-là, je me suis levé et j'ai dit, Seigneur Dieu, grand créateur de la nature, je crois que c'est Esther toi qui parles. À aucun moment tu n'es mis m'a montré quelque chose qui soit faux. Et à aucun moment tu n'es mis m'a laissé dire quelque chose qui n'est mis soit pas arrivé. E71 J'ai alors dit, je dis à cet orage qui fait, rage, retourne à ta place. Retourne. Laisse cela tranquille. Et j'ordonne au soleil de briller pendant les 4 prochains jours, qui suivent jusqu'à ce que ces hommes attrapent leur trophée, que je puisse les aider à trouver cela, et que nous quittions ces montagnes. E72 Et le Seigneur Dieu Esther mon juge solennel ce matin, cette pluie et autres qui tourbillonnaient n'étaient plus là du coup. J'ai regardé, et un vent venait de l'autre côté, au sommet de la montagne, et il a dissipé ses nuages comme ça. En quelques minutes, le soleil brillait, là au sommet, ses rayons descendant vers le bas tout aussi jolis que possible. Oh Dieu, combien j'en ai fait l'expérience moi-même. Et en cet après-midi quand les vents, la pluie et la grêle sont revenus encore, puisse Dieu laisser les autres frères la faire l'expérience de la puissance de leur prière et de leur ordre. La foi par l'expérience, Dieu a livré le lion à David afin qu'il le tue et il le tua. Il n'aimait l'a pas tué pour être méchant, il l'a tué afin de sauver son troupeau. Puis Dieu a livré l'ours à David afin qu'il le tue. Et c'était la préparation pour lui afin qu'il tue Goliath. 1 Samuel 17h34 David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, 35 je courais après lui. Je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais, et je le tuais. 36 sestères ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 37 David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. 38 Saul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. 39 David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je n'ai mis puis pas marché avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:21 mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Remarquez, David n'avait pas approuvé la théologie de Saul, et alors David les a enlevés. Mais remarquez que David s'est reposé sur sa propre foi qu'il a reçue en faisant de première main l'expérience de la puissance de Dieu pour délivrer. Il avait prouvé que Dieu était avec lui quand il est parti juste avec une fronde et un couteau pour tuer le lion et l'ours. Quand le médecin dit, tenez, prenez ce médicament, ça marchera. Il a été prouvé en laboratoire que ça marche. Vous dites, oui, monsieur, il a été prouvé qu'il fonctionne sur les souris, mais je veux la guérison qui a été prouvée par le test du temps, et par conséquent, j'irai au grand médecin qui me guérit de toutes mes maladies, et ce même grand médecin m'a dit, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Dans sa lettre audio à Livelmer 00.05.6 413 frère Branham a dit, lis, je me tenais là à regarder, je n'y voyais rien que, et je savais que cette voix, ce n'était pas un bruit produit par le vent. Le vent soufflait, ou, frère Branham illustre cela, tirer des eux, comme cela. Mais cela Néhémie pouvait pas produire un son distinct et citer cette écriture. Ce vent Néhémie le pouvait pas. Il devait y avoir quelque chose là qui disait cela. J'ai dit, oui, mon Seigneur. Et il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parle au vent, il obéira encore à ma voix. La tempête cessera maintenant comme autrefois. Et j'ai dit, oui, mon Seigneur. Je sais ce que tu dis. Tu as dit, je t'ai commissionné pour parler. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Eh bien, lis, vous pouvez vous imaginer comment je me suis senti. Eh bien, j'ai redressé la tête. Et j'ai dit, merci, Seigneur Dieu. Je vais obéir. J'ai dit, vent, tempête, je vous ordonne de vous arrêter. Et que le soleil brille 4 jours de suite jusqu'à ce que tous ces jeunes gens aient leur gibier et aient quitté la montagne. J'ordonne que le soleil se lève normalement et brille normalement pendant 4 jours, et que ce vent et cette tempête cessent immédiatement. Élie, c'était comme si quelqu'un avait ouvert un parapluie au-dessus de vous. Cette neige fondue et la grêle et la pluie et la neige qui tombait comme cela se sont simplement arrêtées. Cela a cessé. Et me tenant là, je me suis dit. Et tout à coup, le vent venait de l'ouest. Ce que de la radio, nous avions une radio au camp ainsi que dans nos voitures et tout, avait annoncé de quelle direction cela viendrait. Et nous trouvons la même chose dans Matthieu 14:22-33 aussitôt après. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. 23 Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, Il était la seule. 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » 29. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent, cessa. 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, au lieu de prendre peur, il aurait dû s'extasier et être ravi. Lorsque Pierre était focalisé sur Christ, toute autre chose n'émis semblait pas du tout avoir de l'importance. Nous sommes si souvent limités par les choses dont nous avons peur. Et on nous apprend que la peur suppose une pénalité. 1 Jean 4:18. La crainte n'estère pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'estère pas parfait dans l'amour. Et ce mot châtiment estère un mot grec qui signifie une pénalité. Et quelle estère la pénalité de la peur? C'estère l'arrêt de toute progression. La Bible nous enseigne aussi que quand Joseph apprit que Marie attendait un enfant, il a eu peur qu'elle avait un enfant illégitime en elle. Et donc la Bible nous dit que Joseph eut peur de prendre Marie pour femme. Alors Dieu a envoyé son ange dans un songe pour réprimer sa peur. C'est pourquoi il semble qu'à chaque fois que l'ange de l'Éternel vient à un homme, il commence habituellement par lui dire, « N'aie pas peur, car je viens de la présence du Seigneur. » Nous voyons aussi dans 2 Timothée 1, 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8. N'ai donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Je parlais aux frères de l'Ouganda leur montrant la relation entre Jésus comme le frère aîné dans une grande famille de frères, de frère Branham comme un grand frère dans la même famille de frères, et je parlais de Jésus comme frère aîné étant le modèle de tous les frères dans la famille quand cette grosse tempête se leva. Et quand je suis allé m'asseoir, parce que je n'ai mis mon temps des plus prêcher à cause des grêlons qui s'écrasaient sur la tôle de la toiture et le vent qui faisait branler ce toit comme broum, broum, broum. Mais quelque chose m'a parlé et dit de prendre la charge de la réunion. Alors en obéissance à cette voix intérieure, j'ai fait un pas vers la chaire sans savoir comment prendre la charge de la réunion. Et avant même de finir ce premier pas, Dieu m'a fait voir une vision mentale de Jésus dans une barque parlant à la tempête et elle s'arrêta. Puis avant que je fasse mon second pas, il m'a fait voir une autre vision mentale de William Branham parlant à la tempête dans le Colorado et elle s'arrêta. Sachant que je pouvais tirer le son des expériences de mes deux grands frères, et que mon père Néhémie fait exception de personne, je me suis avancé à la chaire et j'ai dit, « Frère, il nous faut incliner la tête et prier. » Et après que j'ai prié, il y avait une telle tranquillité que le seul son qu'on entendait en dehors de ma prédication, c'était un occasionnel top. 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 Alors que les dernières gouttes de pluie tombaient du toit. C'était si calme dans cette église que vous auriez pu entendre tomber une épingle. Et les frères de là-bas se rappellent toujours ce qui s'est passé il y a 11 ans. Je me rappelle très bien comment, après que le Seigneur m'ait donné ces deux visions mentales, le diable est venu dire, « Si tu fais ça, on va se moquer de toi. » Mais je n'avais pas peur d'être un fou de Christ. En fait, ma réponse était, « Je suis un fou de Christ. De qui êtes-vous le fou ?» Mais tant de gens ont peur d'entrer dans leur foi et de la permettre de se concrétiser. Dans le livre de Job, nous entendons Job dire ces paroles, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Et ce n'est pas juste une palissade, mais c'est un fait. Car après tout, nos pensées Néhémie sont qu'un jardin de semences que nous avons semé. Et la semence que nous avons semée, c'est la semence que nous récolterons selon la loi de la vie, telle que Dieu l'a établie dans le livre de la Genèse. Si nous semons des semences positives de la foi, nous récolterons ce que nous avons semé, et nous récolterons les bénédictions qui viennent de la foi. Mais si nous semons des semences négatives du doute, alors nous recevrons aussi les doutes que nous avons semés. Ainsi, si nous devons douter de quelque chose, nous devons douter de nos doutes. Car la foi est la preuve des choses que Néhémie voit pas, Néhémie touche pas, Néhémie sent pas, ou n'entend pas. La foi est la preuve. Ainsi donc, la foi est la preuve, alors elle est la conviction, et l'assurance des choses qui sont là, bien que nos cinq sens extérieurs Néhémie peuvent pas en détecter la présence. Et la foi est non seulement la conviction, mais elle est la substance. Alors la foi est la substance, alors elle est réelle. Écoutez, examinons Hébreux 11. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on n'y voit pas. La parole de Dieu nous dit que la foi n'est pas une substance, mais la substance. Et nous savons que la substance selon Webster, c'est l'élément ou la portion essentielle ou réelle de n'importe quoi. Par conséquent, si la foi est la substance, alors la foi doit être faite de l'essence de ce qu'est Dieu, n'est-ce pas? Or, ce mot substance est un mot grec, hypostasis, et nous découvrons que ce mot est aussi utilisé par le même auteur du livre des Hébreux au premier chapitre. Hébreux 1, 3 qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'image exprimée de sa personne, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Maintenant, quel mot pensez-vous? Dans ce verset, est le même mot que substance qui est utilisé au chapitre 11? C'est le mot personne qui décrit l'essence même de Dieu. Par conséquent, si la foi est la substance ou l'essence de Dieu, alors la foi n'est pas différente du Fils de Dieu. Car admettons-le, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est devenue chair. Et comme la Bible nous enseigne qu'un homme est comme les pensées de son âme. Et Jésus y a ajouté, c'est de l'abondance ou du trop-plein du cœur que la bouche parle. Alors un homme et sa parole sont le même. Par conséquent, un homme est composé de ce que sont ses pensées, et il est ni plus ni moins que ce qu'il pense en son cœur. Donc, comme nous avons lu dans le livre de Jacques, si un homme est irrésolu, s'il est instable dans ses pensées, alors il est instable dans toutes ses voies. Car un homme est comme les pensées de son âme. Je pense que cela va même jusqu'au point où si nous sommes stressés dans nos pensées, alors nous serons stressés dans nos corps. Si nous sommes tendus dans nos pensées, alors nous serons tendus dans nos corps. Si nous sommes liés dans nos pensées, alors nous serons liés dans nos corps. Et tout comme Joseph, quand il eut peur de prendre Marie pour femme, il a arrêté toute progression. Et Dieu a dû envoyer un ange afin de réprimer cette peur. Ainsi donc, si nous devons comprendre comment il se fait que le croyant peut être établi dans la foi, et même stabilisé dans les moments difficiles, nous devons savoir une chose, il n'est ni gagne pas ses caractéristiques par lui-même. Dieu est le seul à posséder ce pouvoir de nous établir, et Dieu n'opère jamais en dehors du domaine de sa parole révélée. Donc, nous devons comprendre le dessein du pourquoi Christ est révélé dans sa propre parole. Nous devons être capables de comprendre que c'est dans un dessein, et c'est celui de nous préparer pour le millénium, où Satan sera lié pendant 1000 ans. Et que sera cette force qui le liera? Apocalypse 2, 1-3 nous dit c'est une chaîne qui le lie. Et quelle est cette chaîne? Frère Branham nous dit, c'est une chaîne de circonstances, parce qu'il ne peut plus atteindre le croyant, à cause du changement de nos corps. Romains 5, 1-11 qu'agit, étant donc justifié par la foi, par la révélation, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, de à qui nous devons avoir eu par la foi, par la révélation, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 bien plus, nous nous glorifions même des épreuves, sachant que l'épreuve produit la patience. 4 la patience l'expérience, et c'est l'expérience l'espérance. 5. Or, l'espérance n'est trompe point. Or, ce mot épreuve a été traduit du mot grec qui signifie pression, et c'est un mot que nous pouvons mieux comprendre par expérience que par épreuve. Donc la Bible dit nous nous glorifions des pressions sachant que les pressions produisent la patience. Et la patience est définie comme la faculté ou l'empressement à réprimer l'agitation ou la contrariété lorsque confronté au retard, et remarquez que les pressions ont un dessein et cessent d'édifier une expérience, et cette expérience l'espérance. Ainsi donc, la patience produit l'expérience et l'expérience l'espérance. 4 la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. La confirmation de la commission le 22 janvier 62 ou 237. Or, ce même Saint-Esprit, nous le trouvons en plein au milieu des pentecôtistes aujourd'hui, la lumière du soir, en plein au milieu des pentecôtistes. Quoi? Prêchant le même évangile, confirmant le même évangile. Les mêmes miracles qui avaient accompagné jadis. Ce sont les mêmes miracles qui accompagnent aujourd'hui. Si cette colonne de feu, ou cette lumière, que nous avons avec nous n'est manifestée pas le même esprit et la même preuve qu'elle avait apportée lorsqu'elle était en Jésus-Christ, elle n'est serait donc pas la bonne colonne de feu, le bon esprit, la bonne chose. Le Dieu immuable sème 20 janvier 62, 144. Et puis, si vous confessez que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous avez fait l'expérience, et qu'ensuite votre vie ne concorde pas avec la parole de Dieu, alors vous n'avez pas le bon esprit, voyez-vous? 1 Pierre 5:10 amplifié. Et après que vous ayez souffert un peu de temps, le Dieu de grâce qui transmet toute bénédiction et toute faveur, qui vous a appelé à sa propre gloire éternelle en Christ Jésus, achèvera lui-même et fera de vous ce que vous devez être, et vous établira et vous fondera fermement, et vous fortifiera et vous affermira. 2 Timothée 3:16 Toute écriture est inspirée de Dieu, pour notre édification. Et donc, on doit dire la même chose de ce qui nous a été apporté en cette heure, comme c'est le message de l'or révélé, et Dieu est venu pour accomplir ce qu'il a promis. Alors si toute écriture est donnée dans un dessein, alors qu'est-ce ce qui peut être dit de cette parole, quand elle a été révélée et interprétée? Sortir du camp 64-07-1974. Car il demeure uniquement dans sa parole. Pour la confirmer. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Pour la confirmer. La présence de Dieu non reconnue jeudi 18 juin 64-1. Travailler pour ce seul but, vous permettre de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S'il est présent. Alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la parole. Il est ici pour la confirmer. Il prouve qu'il la confirmera. Il est juste le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Philippiens 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, pour combien de temps? Pour le jour de Jésus-Christ. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.